Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 18e épisode de Popol. Et pour ce 18e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Janvier. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Caroline?
Alors, je suis députée de la deuxième circonscription du Loiret, donc qui comprend notamment la belle ville d'Orléans. Je suis mariée et mère de 3 enfants et je travaille notamment sur des questions de handicap, puisque c'était mon expérience professionnelle précédant mon mandat d'élu. Donc, je siège à la commission des affaires sociales. Je travaille aussi beaucoup sur les questions européennes au sein de la commission des affaires européennes.
Merci beaucoup, Caroline. Et nous avons aussi avec nous Mao Chaudouet. Bonjour, Mao.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors moi, je suis conseillère politique. Je me suis progressivement spécialisée sur les questions sociales et écologiques avec un angle vraiment d'économie politique et de politique publique. Donc moi, je suis formée en histoire et en affaires publiques et en droit. J'ai été collaboratrice parlementaire d'Aurore Laluc au Parlement européen. Et avant ça, j'ai été chef de cabinet de Frédéric Bredin au Centre national du cinéma. Et avant ça encore, j'étais consultante en cabinet de conseil. Et je suis aussi militante féministe, notamment au sein de la Fondation des femmes, où je travaille principalement sur l'égalité professionnelle et économique.
Merci beaucoup, Mao. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir sur ce plateau de Popol, ce plateau virtuel, je précise, Manon Aubry. Bonjour, Manon.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, très bien. Et toi?
Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi en quelques mots, s'il te plaît?
Oui, même si c'est toujours bizarre de parler de soi-même, quasiment à la troisième personne. Mais non, moi, je suis députée européenne France Insoumise. Je suis aussi co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. J'ai été élue il y a 2 ans aux dernières élections européennes et avant ça, je travaillais dans le secteur associatif. Je faisais de la recherche et j'étais porte-parole pour l'ONG Oxfam sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités qui sont encore aujourd'hui mon dada. Et donc, c'est principalement ce que je fais maintenant au Parlement européen, à la fois dans la commission des affaires économiques et monétaires, dans la commission des affaires juridique. Je m'amuse à traquer les paradis fiscaux et les grands de ce monde qui ne veulent pas payer leur juste part d'impôts. Voilà.
Ouais, c'est un beau combat aussi. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes aujourd'hui. On va parler de communication politique et nous parlerons ensuite des avancées en matière de droits des femmes. Alors, premier sujet, la communication politique en 2021. Live sur Instagram avec des influenceurs, échange en direct sur Twitch, vidéo sur TikTok, participation à des rooms sur Clubhouse. Les personnalités politiques sont de partout dans les médias. Avoir une image plus cool, dialoguer en direct avec des utilisateurs, capter un public différent, voici ce qui semble motiver les personnalités politiques en 2021. On en parle beaucoup ces jours-ci, mais ce phénomène n'est pourtant pas nouveau, et nombreuses sont les personnalités politiques qui cherchent à rajeunir leurs outils de communication. Les premiers exemples nous viennent des États-Unis, où les démocrates se sont rapidement saisis des nouveaux médias pour parler sans intermédiaire à leur électorat. On pense notamment à Bernie Sanders, qui a ouvert sa chaîne Twitch en juin 2019. En France, le leader de la France Insoumise fait office de figure de proue dans ce domaine et est présent sur Twitch depuis mai 2020. Mais que cherche réellement une personnalité politique lorsqu'elle décide de se saisir de ces nouveaux outils de communication ? Le « hold-up » entre guillemets des politiques sur ces réseaux n'est-il pas de nature à changer les règles du jeu et à rendre ces espaces de plus en plus normés? Et je vais donner la parole à Manon pour commencer sur ce thème. Qu'en penses-tu?
Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la communication politique et ce que ça veut dire. D'abord, il y a la manière dont le débat politique s'organise actuellement dans les médias. Aujourd'hui, le débat politique s'organise beaucoup sur des plateau politique dont l'objectif est quasiment le conflit, en fait. On est devenu presque des formes de petits soldats qui acceptons malgré nous, pour certains d'entre nous, ces règles du jeu, du conflit qu'on peut voir sur les plateaux CNews, LCI, BFM, etc. Donc, il y a une transformation d'abord de la nature du débat politique dans les médias. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du coup, en compensation de ça, le développement de sa propre communication politique dont on est maître. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est maître, mais en même temps, on n'a pas de contradicteur. Donc, ça veut dire aussi qu'on peut raconter les plus grosses conneries de la Terre et potentiellement ne pas être contredit. Mais ça pose quand même question, parce que si aujourd'hui ça s'est autant développé, c'est parce qu'il y a une défiance des gens dans les médias classiques qui fait qu'on utilise d'autres sources de communication et d'information pour avoir un lien plus direct avec les gens et développer aussi un lien de confiance qu'on n'arrive pas forcément à tisser dans la communication classique qui est la communication des médias et qui nous permet de parler des sujets que les médias ne nous permettent pas de parler. C'est ça aussi le cœur du problème pour moi, c'est qu'on va aborder, on va faire le choix d'aborder des sujets qui sont assez peu abordés par les médias. Voilà, moi, j'ai travaillé cette semaine sur une directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales pour qu'elles soient responsabilisées pénalement et juridiquement si jamais elles violent les droits de l'homme ou elles saccagent l'environnement. Bon, ce n'est pas un texte qui va faire la une des médias. Bah, du coup, moi, je vais faire mon live Facebook, Instagram, et en effet, je vais informer les gens de ce qu'on a fait au Parlement européen sur le sujet et aussi la manière dont ils peuvent nous aider à nous soutenir. Donc, l'idée, c'est comment, bah, en fait, on brise ces espèces de murs artificiels qui existent aujourd'hui entre la politique et les gens et qui contribuent à ce désamour politique. Donc, je pense que ce développement, il s'est fait naturellement, il est tant un besoin de rapprochement des politiques avec les gens, mais il est aussi un témoignage des médias qui ne jouent plus toujours leur rôle de débat politique sur des sujets qui intéressent les gens.
Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis et je partage en effet un peu. Moi, j'ai une position particulière et un positionnement particulier dans ce débat parce que j'ai moi-même créé un média il y a 3 ans qui était Place du Palais Bourbon, le premier podcast politique en France, en partant du constat effectivement que la politique était quelque chose de trop austère, de trop compliqué et qu'il fallait faire en sorte de recréer du lien entre les élus et leurs électeurs et électrices. Et aujourd'hui, quand je vois des personnalités type Samuel Etienne, parce que c'est aussi pour ça qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps en politique, qui sur Twitch invite François Hollande, qui bientôt invitera Jean Castex, et peut-être a fait un appel du pied à Marine Le Pen, moi je dois vous avouer que ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que je me dis, mais en fait, moi, cette espèce de liberté que j'ai essayé de saisir, dont j'ai essayé de me saisir avec mes propres moyens, qui sont très, 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 très petits hein, par rapport à un journaliste tel que Samuel Etienne qui vient un peu de l'intelligentsia des médias français, viennent un peu casser le bail, en quelque sorte, avec des règles du jeu qui ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que moi, typiquement, aujourd'hui, sur Popol, eh bien non, je n'ai pas envie d'avoir des personnalités du Rassemblement National. J'ai envie d'avoir des personnalités de La République En Marche, j'ai envie d'avoir des personnalités de La France Insoumise, j'ai pas envie d'avoir certaines personnalités de LFI ou certaines personnalités de LRM, et pour autant, personne ne va venir m'embêter là-dessus. Je ne suis pas soumise au CSA, et c'est super important. Moi, ce que je crains vraiment en voyant ces usages, c'est de me dire que finalement, l'espace qui fait qu'aujourd'hui, c'est un espace agréable où on peut parler de manière simple et sans filtre, deviennent des espaces excessivement normés. Je ne sais pas, toi, Caroline, tu perçois les choses comment ?
Je me pose beaucoup de questions aussi avec ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec Manon sur le fait qu'on a, nous, la nécessité de développer tout un tas d'outils. Moi, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, j'ai un site internet, une newsletter, pour finalement mettre en lumière un certain nombre de sujets, notamment les questions de handicap qui font aussi rarement beaucoup parler. Je travaille de façon plus récente sur le sujet du cannabis et là, il suffit de prononcer le nom pour qu'effectivement les médias s'y intéressent. Mais tout ce que j'ai fait depuis 3 ans sur le handicap, on n'en a pas trop parlé. Et donc, à la fois, il y a la nécessité pour nous, et moi, j'ai des retours très positifs de mes électeurs d'avoir autant de supports de communication. Ils me disent finalement, on maîtrise, on voit de beaucoup plus près quel est votre quotidien et vos sujets. Mais cela, effectivement, ne permet pas d'avoir un débat contradictoire et une médiation par un journaliste. Et donc, je crois que ces nouveaux espaces et ces plateformes, elles sont nécessaires. Moi, la question que je me pose quand même, c'est que quand on voit un certain nombre de, comment dire, l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux et la façon dont les choses ont évolué aux États-Unis avec Twitter et Facebook, d'une certaine façon, moi j'ai trouvé, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété, pris leur responsabilité face à un dirigeant politique qui menaçait de façon très directe les institutions. Moi j'ai plutôt salué le fait qu'il censure un certain nombre de propos à ce moment-là. Je crois que dans tout espace de discussion, tout espace public dans une démocratie, il faut qu'il y ait une responsabilité éditoriale qui a été mise en place avec la diffusion des médias modernes et qui, je crois, va quand même se mettre au fur et à mesure, ne serait-ce que pour empêcher tout ce qui est apologie de la haine, des contenus qui sont radicaux et qui sont finalement interdits dans le monde non virtuel. Cela étant, moi, il y a quelque chose que je trouve assez agréable dans ces nouveaux médias et ces nouveaux interlocuteurs comme toi, Léa, c'est le fait que moi, j'ai été élue pour la toute première fois il y a 3 ans, comme toi, Manon, et on se retrouve, enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvée à certains moments un peu face à un mur, face à des journalistes politiques qui avaient une grille de lecture et beaucoup plus, quelque part, de longévité que moi, et qui, par exemple, revenaient avec nous en marche. On a voulu effectivement un petit peu sortir de cette grille de lecture gauche-droite et de cette façon de mettre une étiquette sur toutes les idées en fonction d'une histoire et d'une idéologie qui était rattachée à une famille politique. Et c'était quelque chose qui n'était pas forcément audible, et on avait le sentiment parfois que finalement l'édito politique, la rédaction d'un certain nombre d'articles avait plus de poids que la parole, et que si on ne rentrait pas dans cette grille de lecture-là et dans cette façon de penser, et ben ça ne les intéressait pas. De la même façon que souvent, moi je le constate avec notamment des journalistes politiques, si on n'a pas de critiques, de petites phrases, de petits ragots éventuellement à faire sur un collègue, sur un ministre, et ben on n'est pas non plus cité dans les papiers politiques. Et ça, c'est quand même quelque chose qui vraiment nuit, je trouve, à la fois à l'image du politique et quelque part à la qualité, au débat de fond du débat public.
Oui, bien sûr, c'est assez intéressant ce que tu dis. Mao, je te laisse nous donner un peu ton point de vue général là-dessus, et après je ferai réagir Manon, qui avait envie de réagir à ce que disait Caroline.
Oui, alors moi, je ne parlerai pas en tant qu'élue pour le coup, mais je rejoins à la fois Manon Bri et Caroline Janvier. Sur le fait qu'effectivement, ces nouveaux médias, enfin je refais le focus sur les nouveaux médias qui instaurent en fait plus un lien de confiance, effectivement avec tous ces outils, et une plus grande diversité des sujets abordés. Et en plus, ça marche en fait. Moi j'ai l'impression quand même ça permet une capacité de mobilisation et de réintéressement à la vie politique qui est quand même notable. Enfin, tu l'avais dit, Léa, en introduction, mais les démocrates américains, ça a quand même vachement bien marché. On se rappelle d'Alexandria Ocasio-Cortez qui a passé 3 heures, je crois, sur Twitch pour mobiliser l'électorat jeune avant l'élection présidentielle, et qui a fait 500 000 de spectateurs simultanés. Mais aussi en France, Manon Bri qui quand même utilise vachement bien YouTube et qui intéresse à certains sujets européens, je trouve personnellement. François Ruffin aussi, Raphaël Glucksmann qui a quand même vachement mobilisé via Instagram sur les Ouïghours.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Toutes les campagnes des associations, le parti animaliste, enfin, c'est des vrais outils de mobilisation et d'information qui permettent de moderniser, et surtout, il y a un enjeu de cible pour parler à un électorat difficiles à atteindre que sont les jeunes. Donc, notamment, voilà, les membres du gouvernement ont raison de le faire, d'investir ces nouveaux espaces d'échange, et ils l'ont fait avec beaucoup d'énergie récemment. Hein. Mais en fait, moi, pour moi, ça pose deux enjeux, ce sujet des nouveaux médias. Le premier, c'est que il arrive du coup plus souvent que ces outils, parce que, comme le disait Manon Aubry, ils permettent de créer une chambre de résonance à sa propre communication. En fait, il arrive plus souvent que ces outils soient utilisés comme des purs leviers de communication et qu'ils soient élevés au rang de fin politique et non plus de moyen politique pour s'exprimer sur tel ou tel sujet. Ben, en fait, ça vide de sens le processus même de communication, puisque, pour citer Marlène Schiappa sur TikTok, à ce moment-là, elle disait pour moi, hein, c'est vraiment mon avis, pour moi, elle disait rien à part sa seule volonté de s'adresser aux jeunes. Et donc, c'était assumé pour sa pure forme, sans aucun autre message. Et ça, en fait, potentiellement, en plus de, peut-être ringardiser l'image des personnalités politiques, ça écorche, en fait, la parole politique. Donc, ça fait le contraire de son ambition. En fait, au fond, avec ce type d'initiative, on peut gagner en proximité, mais perdre en sacralité, et c'est ce qui pour moi se cristallise un peu depuis quelques temps autour de la détresse des jeunes pendant la crise. C'est ce décalage entre l'énergie qui est déployée pour communiquer auprès des jeunes, sans filtre, pour reprendre le média le canal de Gabriel Attal, et la difficulté, voire l'attentisme de leur venir en aide effectivement. Donc en fait, ces médias, je trouve, peuvent créer un décalage entre la forme et le fond. Et le deuxième enjeu, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Léa, aussi en introduction, c'est en fait cet investissement du politique dans ces nouvelles plateformes peut conduire à une plus grande réglementation, en effet, hein, type CSA, qui en fait va créer des conflits et des tensions entre les utilisateurs, notamment ceux de Twitch, parce que en fait, ils voient ça comme une vampirisation, ils voient ça d'un assez mauvais œil, la politisation de leur plateforme de jeu. Et ils deviennent allergiques à toute forme de promotion ou de communication politique. Donc, c'est une forme d'atteinte à leur culture et à leur espace numérique.
Ouais, ça, c'est un point assez important. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait une réaction très vive hein, de la part des viewers sur Twitch par rapport à l'annonce de Samuel Etienne avec la participation d'une part de Jean Castex à son live et peut-être d'autre part de Marine Le Pen. Mais ça, c'est marrant parce que alors je partage ton opinion là-dessus. Effectivement, ça peut venir contredire un peu le principe de la plateforme et ça peut être très mal perçu. Mais tu vois, à l'inverse, si on prend quelqu'un qui le fait avec beaucoup de sincérité et qui le fait avec les codes du média depuis 6 ans. Je pense à Jean Massier avec sa chaîne Acropolis. Ça fonctionne super bien parce qu'en fait, il maîtrise aussi les codes. Quand tu donnais l'exemple aussi, Mao, de Alexandria Ocasio-Cortez, qui est arrivée à avoir 500 000 viewers sur Twitch, c'est parce qu'elle a aussi accepté de faire sien en fait les codes de la plateforme, et c'est aussi ça qui est super important. Moi, là où je trouve que Gabriel Attal se plante un peu, c'est parce que en fait quand il fait des lives sur Instagram, c'est tellement presque anachronique par rapport aux personnalités avec lesquelles il parle. On a l'impression que c'est deux personnes qui se comprennent pas, quoi. On dirait une poule devant un coteau, d'un côté comme de l'autre. Enfin, c'est beaucoup moins bien fait et beaucoup moins sincère. Et je pense que ça, c'est un peu peut-être la clé pour arriver à un peu percer sur les réseaux sociaux. Manon, tu voulais réagir et ajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, après, en passant après Mao, il y a plein d'autres trucs qui me font réfléchir. Et je suis globalement d'accord avec ce qu'ont dit à la fois Caroline et Mao. Il y a trois tout petits trucs qui m'ont fait réfléchir. Le premier, c'est ce que tu disais à la fin sur le fait de ne pas avoir les codes, de ne pas utiliser les bons codes. Et c'est vrai que sinon, ça, en fait, quand on fait un live Insta et que on vient donner la ligne du gouvernement et qu'on parle de la même manière comme en conférence de presse que fait Gabriel Attal le mercredi, quand il s'adresse aux journalistes, je trouve que du coup, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Et moi, je m'interroge toujours, et y compris il y a cette espèce de peur du ridicule quand on est quand on fait de la politique, et donc il faut toujours bien présenter et parler genre face cam et dire blablabla, et en fait il faut accepter parfois de se tourner en dérision, d'être des êtres humains et juste de montrer bah, en fait ouais j'ai aussi mes faiblesses et je suis comme vous et moi aussi je suis confinée et moi aussi ça me gonfle et je pense que ça du coup ça arrive à ma deuxième analyse de ce type de communication politique, on va dire, à la Attal. En effet, ça vide la politique de son contenu parce qu'au final, on a juste un message préécrit et donc après, on l'assène selon différents formats. Et en fait, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ce que disait Mao. Et la deuxième chose, c'était par rapport à ce que disait Caroline sur le type de bataille qui se mène sur les plateaux télé. Et moi, mon analyse, mais je le vois aussi autour de moi, c'est qu'il y a une forte dimension genrée. Chez nous, à la France Insoumise, ceux qui sont les premiers à dire oui pour aller sur ce type de plateau, on va se dire les choses franchement, c'est rarement des femmes. Parce que les codes politiques qui sont utilisés, cette espèce d'univers du vrai conflit et avec une image guerrière, en fait, où on a des soldats qui vont se taper dessus sur un plateau télé, ça envoie un univers extrêmement viriliste et qui, je trouve, dangereux parce que derrière, un, on dégoûte des femmes de faire de la politique, parce que je ne compte pas le nombre de femmes politiques autour de moi qui vont l'estomac noué, qui se sentent obligées, etc. Et puis de deux, on renvoie cette image de la politique. On dit aux gens que faire de la politique, c'est qu'aller se taper dessus. Caroline et moi, on n'est pas de la même formation politique, c'est pas pour ça qu'on va aller se taper dessus. Ici, on se parle tranquillement. Mais comme ce qui est visible, c'est cette phase émergée de l'iceberg du conflit où à qui crie le plus fort, et bon, quand on est une femme, a priori, déjà, on perd direct ce combat parce qu'on n'a pas la même tonalité de voix, c'est physique. Et donc, du coup, on contribue à créer cet univers politique qui, moi, ne me correspond pas, mais qui, je pense, ne correspond pas à plein d'autres gens qui dégoûtent de la politique, qui, moi, m'a fait beaucoup hésiter avant d'entrer dans cet univers en mode bah, « En fait, ce n'est pas ça que je veux, je n'ai vraiment pas envie de ressembler à ça. » Et du coup, est-ce que je suis obligée d'accepter ces codes-là ? Et qui, à la fois, peuvent décourager des gens qui pourraient faire de la politique. Et donc, du coup, on n'a que le même type de personnes qui font de la politique, le même type de profil ou au moins qui émergent. Et puis, décourage a fortiori les gens de s'intéresser à la vie politique, de voter, et ça contribue à cette espèce de divorce progressif entre les gens et la politique, et auquel je crois c'est la pire des choses qui peut arriver pour une démocratie.
Je partage à 100% ta réflexion et ta vision des choses, et c'est d'ailleurs pour ça que l'émergence ouais, d'acteurs plus traditionnels, plus classiques sur ces espaces qui sont pour moi le podcast, pour d'autres Twitch, pour d'autres TikTok, ou peu importe Instagram, etc. Moi, ça m'effraie un peu parce que justement, c'est tous ces codes-là que j'essaie de casser. Là, on est entre nous, c'est sympa, on a le temps, on discute. On n'est pas là pour se crier dessus, on n'est pas là pour expliquer en 2 minutes quelque chose qui est inexplicable en 2 minutes. Enfin bref, essayer justement de créer des formats moins contraints. Et moi, j'ai vraiment peur qu'avec des acteurs plus classiques qui viennent occuper ce terrain, on en revienne à ce que finalement les gens désertent aujourd'hui, à savoir les formats traditionnels des médias. Caroline, je t'ai vu beaucoup acquiescer pendant que Manon intervenait.
Oui, tout à fait. Moi, je me retrouve complètement sur cette vision, comment dire, culturelle, genrée, avec notamment cette conflictualité, cette question du rapport de force, du territoire qu'il faut défendre et qui passe forcément par le conflit. Et je rajouterais aussi la dimension un peu politique-spectacle, quoi, buzz, et pour qu'il y ait un buzz, et ben, il faut que quelqu'un crie, que quelqu'un s'insulte et que tout le monde en parle ensuite. Et moi, j'étais aussi frappée de la façon dont, et c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'on est dans une phase un petit peu transitoire, dont la façon dont beaucoup de commentateurs politiques, et pour moi, il y a une responsabilité partagée à la fois d'une certaine génération politique, mais aussi d'une certaine génération de journalistes, où on attend du politique une très grande assurance, une très grande connaissance de sujet, une absence totale d'humilité, de modestie et une forme de, un peu de réponse à tout. Et quand on se positionne différemment, moi j'ai eu plusieurs commentaires sur des petites vidéos que je faisais effectivement assez rapidement avec mon équipe, ça nous a un peu rigolé, on faisait des choses et les gens me disaient mais tu n'as pas peur que du coup les gens ne, te manquent un peu de respect et que tu... Et donc le fait de cultiver quelque part la proximité, une forme d'humilité ou en tout cas de, comment dire, de lucidité sur, sur ce qu'on est et sur ce qu'on n'est pas, c'est aussi un code moi, qui me semble assez genré et qui correspond justement au code que tu évoquais Léa. Et je pense qu'aujourd'hui on a un certain nombre de ministres ou de députés de, qui sont un petit peu à cheval, c'est-à-dire qui veulent à la fois plaire à ses commentateurs politiques et collègues, et donc ils vont leur parler avec, avec ces codes-là, et en même temps ils se disent il faut qu'on atteigne ces cibles, ces jeunes, et sauf qu'il y a un moment on ne peut pas être sur ces deux. Donc moi j'ai le sentiment voilà, qu'on est un peu dans cette phase transitoire, j'ai beaucoup d'espoir sur voilà, une autre forme de communication plus authentique, plus sincère, et qui finalement permette aux gens aussi de se dire bah, la politique c'est, ce n'est pas que le fait des hommes et des femmes politiques, mais en fait c'est la vie de la cité, donc ça, ça nous concerne tous, et j'ai, donc j'ai beaucoup de confiance sur ce, beaucoup d'espoir en tout cas sur ces nouveaux médias, et je pense que ça pourrait être aussi une bonne façon de quelque part remédier à ce qui mine nos démocraties, cette défiance, ce niveau d'abstention qui monte d'année en année, et qu'en tout cas il faut aller vers ça.
Ouais, merci beaucoup Caroline. Mao, je te laisse conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Oui, non, très rapidement. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste rebondir sur bah, le caractère genré, effectivement, des médias et de la communication politique en général, comme le disait Manon. En fait, je suis entièrement d'accord avec cette question de, justement de, du vocabulaire du conflit et de la guerre qui est dans les médias et qui n'a jamais été autant... cristallisé pendant la crise du Covid. En fait, c'est assez marrant de voir à quel point enfin, le caractère genré des médias s'est manifesté pendant la crise, puisque on a eu à la fois un vocabulaire très viriliste de la guerre, donc il faut aller au conflit, etc. Et en même temps, il y a une confiscation de la parole des femmes, donc, par exemple, qui représentait 46% des médecins généralistes et spécialistes et qui n'ont été que 27 des interrogés dans les médias. Donc en fait, les femmes n'avaient jamais été aussi expertes sur des sujets et jamais aussi peu entendues. Et ça, sous couvert bah, voilà, d'un vocabulaire viriliste de la conflictualité des médias qui en fait empêchait les femmes encore plus qu'avant d'investir les médias.
Oui, absolument. Ouais. C'était la France Insoumise qui avait sorti la crise du coronavirus. C'est ça, hein, Manon, je parle sous ton couvert.
Ouais, monsieur, ouais, c'était un meeting, enfin un meeting numérique qu'on avait lancé avec Clémentine Autain, parce que justement, en fait, on n'en pouvait plus que les hommes parlent pour nous dans un langage guerrier qui ne nous correspondait pas, pour faire court.
Alors, on voulait parler avec vous aujourd'hui des avancées en matière de droits des femmes. La lutte est quotidienne, mais il est important de redresser le bilan occasionnellement, et c'est souvent ce qui est fait le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. C'est souvent à cette occasion que les gouvernements présentent leur bilan en la matière, ainsi que de nouvelles mesures. Et cette année ne fait pas exception, puisque la majorité a présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. En parallèle, l'exécutif s'est félicité de son bilan en la matière, en mettant notamment en avant le Grenelle des violences conjugales. Mais du côté des associations féministes, la déception est palpable. Et beaucoup regrettent que la grande cause du quinquennat ne soit pas davantage prise au sérieux, notamment à travers la mise en place de réformes structurelles. Plus globalement, les associations féministes dénoncent un décalage important entre ce qui est dit et ce qui est fait. Est-ce que vous partagez ce constat ? On va commencer avec toi, Caroline. Qu'en penses-tu ?
Alors, évidemment, je ne peux que saluer les efforts qui ont été faits depuis 3 ans. Je vais les rappeler rapidement parce que vous les connaissez. Il y a déjà quand même la féminisation du Parlement qui comprend maintenant 39% de femmes. Hein, c'est plus que sur d'autres catégories d'élus, notamment locaux, avec voilà, des stratégies politiques de donner à des candidats des circonscriptions qui étaient gagnables, ce qui n'était pas le cas, je pense notamment des Républicains. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont été votées sur l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels, la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Une mesure qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de la création de l'index pour l'égalité professionnelle, hein, qui oblige finalement les entreprises à communiquer et donc à avancer sur cette question-là, le doublement du congé paternité, la lutte contre les impayés de pension alimentaire, donc beaucoup de choses comme ça. Une fois qu'on a posé cela et qu'on a effectivement mis en place un certain nombre d'outils juridiques sur ces questions-là, évidemment qu'on va jamais assez loin. Et en tant que femme, moi, je ne peux pas me satisfaire du fait que, notamment s'agissant de la représentation et des postes à responsabilité, on est à Matignon, à la présidence de l'Assemblée nationale, à la présidence de notre groupe, à la direction générale de notre mouvement, des hommes. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup avec mes collègues femmes, notamment du groupe LAREM. On s'est beaucoup interrogé sur les raisons de cela et elles sont diverses, mais on n'a pas réussi à faire progresser, et ça c'est presque une idée, c'est presque un changement culturel, à associer à la notion de pouvoir et de légitimité des femmes. Et on reste, même dans nos débats internes, à chaque fois qu'on a des grilles de lecture qui restent avec ce biais et qui associent de façon très spontanée le pouvoir, le poids politique, la compétence même parfois à des hommes, au mépris total de la réalité, quoi. Donc je reconnais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'espère qu'on pourra avancer, notamment sur cette question de la représentation, parce qu'elle est importante. C'est la petite fille, quand elle grandit, qui va voir, nous on vient enfin d'avoir une nouvelle préfète en région Centre, c'est la première fois de l'histoire de la région, les petites filles qui vont voir le préfète, des députés, des mères femmes, et ben elles vont pouvoir aussi se projeter. Donc cette question-là, elle est à mon avis fondamentale.
Oui, absolument. Mao ? Tu as suivi, j'imagine, toutes les annonces qui ont été faites pendant cette semaine, parce que cette journée devient une semaine, ce qui est une bonne chose.
Oui, de fait, j'ai suivi ça de près et je suis aussi cette proposition de loi de près. En fait, moi, je vais faire un commentaire plus général, si je peux. C'est que, de fait, il y a eu des mesures qui ont été avancées. Hein. Ça a été la grande cause du quinquennat. Et bon, même si individuellement, on peut les critiquer ou critiquer leur caractère partiel, hein, je pense notamment à l'index de l'égalité. En fait, ce qui m'embête plus globalement, c'est qu'on n'a pas assez pris en compte les leçons de la crise qu'on traverse sur ce sujet, et notamment cette proposition de loi. Elle intervient à l'aune du 8 mars, mais elle n'intervient pas du tout dans un contexte. Enfin, il y a un décalage un peu, je trouve, parce qu'elle ne prend pas en compte les choses inédites qui se passent aujourd'hui autour de la question de l'égalité. D'abord, la contradiction très forte qu'il y a entre le fait que le travail des femmes n'a jamais été aussi visible dans son caractère dit depuis essentiel, puisque les femmes représentent plus de 70% des effectifs de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, etc. Donc, 90% des infirmières, des aides-soignants, des aides-ménagères, j'en passe, enfin, des agents d'entretien, etc. Et en même temps, ce même travail n'a jamais été aussi visible dans sa précarité. C'est-à-dire que ces métiers restent les plus bas dans l'échelle sociale et économique, et plus généralement, les droits des femmes reculent partout, puisque ce sont les plus exposés à la crise, en termes d'accès au marché du travail et aux soins, à l'école, avec des conséquences considérables, hein, qui vont rester des décennies. L'UNICEF vient de tabler à 10 millions de filles supplémentaires qui feront l'objet de mariages forcés d'ici 2030 à cause de la crise. Donc on a cette contradiction très forte, très visible, très conflictuelle, et qui n'a pas du tout, ou de façon très partielle selon moi à travers le Ségur, été prise en compte par le gouvernement, qui n'a instauré par exemple aucune égaconditionnalité dans les plans de sauvetage ou dans les plans de relance, et il n'y a pas eu de renforcement d'égaconditionnalité aussi dans cette proposition de loi. Et la deuxième chose inédite, c'est quand même une crise où beaucoup de femmes ont travaillé gratuitement, entre les femmes qui ont vu leur charge domestique exploser avec le confinement et le télétravail. Et c'est un truc dont on ne parle pas. Or, c'est un travail, en fait. Et par exemple, les couturières qui ont fabriqué des masques pendant des mois dans des quantités industrielles sans être rétribuées. Les élèves infirmières qu'on a réquisitionnées sous le statut de stagiaire, donc c'est-à-dire entre 0,80 et 1,40 € de l'heure, alors même qu'elles ont été justement réquisitionnées parce qu'elles ont un diplôme et que ce diplôme a de la valeur, et notamment une valeur monétaire. et qu'on a nié partout cette valeur monétaire du travail des femmes au nom de valeurs supérieures, de solidarité, de générosité pour un pays, encore une fois, en guerre. Et en fait, pour moi, et je finirai là-dessus, c'est des enjeux sociaux qui sont partiellement, voire complètement absents, notamment de cette proposition de loi et des réflexions aujourd'hui, pour accélérer l'égalité économique et professionnelle, voire au contraire, cette proposition de loi cherche à orienter les femmes vers des secteurs plus rémunérateurs, ce qui est bien, hein, mais en fait, le problème, c'est au contraire l'échelle des valeurs de ces métiers. Pourquoi ils ne sont pas plus rémunérés alors même on les requalifie d'essentiels? Et on cherche, par exemple, à faire la même chose avec les entreprises, un état des lieux genré, des 10% de postes à responsabilité, etc. C'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, en fait. La priorité, surtout dans ce contexte de crise, ce n'est pas tant d'améliorer, pour moi, la place des femmes au plus haut niveau de l'entreprise, parce que ça ne réglera pas la question de l'égalité économique en général. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer à toutes les salariées femmes. Et voilà, il ne s'agit pas tant d'adapter les femmes à notre modèle économique, donc les faire choisir des filières plus rémunératrices, etc. Ça, il faut le faire. Mais il faut surtout quelque chose d'holistique, en fait. Sur notre modèle tout entier, il faut réussir à chausser les lunettes du genre ou des lunettes féministes qui prennent en compte la place sociale et économique des femmes dans les leçons à tirer de cette crise et qui nous permettraient d'aller beaucoup plus loin, de redéfinir tout un modèle, aller vers un modèle voilà, de promotion des métiers du lien qui aurait l'avantage de revaloriser économiquement les femmes, plutôt prendre la question dans ce sens-là. Voilà.
Oui, donc toi, tu sembles partager un peu l'opinion des associations qui considèrent qu'il faudrait vraiment intervenir sur des mesures beaucoup plus structurelles et structurantes que des mesurettes, comme certaines disent. Manon, tu as suivi tout ça et peut-être que tu as une perspective européenne, parce que, alors attends, si je ne me trompe pas, la stratégie européenne d'égalité femmes-hommes a été adoptée il y a un an tout pile, non ? Au niveau de la Commission ?
Oui, avec plein de trucs qui ont été bloqués, par exemple la question de l'égalité dans les conseils d'administration. C'est un dossier, je crois maintenant, ça fait 8 ans qu'il est bloqué au Conseil. Donc ça en dit long de à quel point c'est une priorité sur la scène européenne. Et puis surtout, l'actualité européenne, elle est marquée par un retour en arrière, s'agissant notamment du droit à disposer de notre corps, puisque la Pologne vient de facto de rendre impossible, à travers une décision de la Cour constitutionnelle, l'accès à l'IVG. Mais on oublie souvent, mais ce n'est pas le seul pays où l'accès est interdit, parce qu'à Malte, c'est aussi interdit. Et puis, il est en pratique restreint dans plein d'États, que ce soit à travers la clause de conscience, qui dans certains États est très suivie, qui fait que c'est difficile en pratique. Dans d'autres, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Donc, un truc aussi, j'ai envie de dire, aussi simple et fondamental, en fait, que le droit à l'IVG. Moi, je fais partie d'une génération, je suis née. Le droit à l'IVG existait déjà, je veux dire, il n'y avait plus de débat sur le sujet. Donc, naïvement, j'ai grandi dans un environnement où je pensais que c'était un acquis. Et en fait, on se rend compte à quel point, non seulement la taille du chemin encore à parcourir pour les femmes pour conquérir les droits, mais à quel point ces droits sont fragiles. Et ils sont sans cesse remis en cause par les forces du conservatisme, et on le voit à travers l'Europe. Et c'est malheureusement un des enseignements principaux de l'Union européenne. Par ailleurs, incapable de hausser le ton quand il s'agit de protéger ses droits, et je pense à la Pologne spécifiquement, puisqu'on a un mécanisme de l'état de droit très faible qui fait que l'Union européenne ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Alors, à mon sens, ce pourquoi elle devrait exister, c'est de protéger ses droits fondamentaux. Après, pour réagir à ce que disaient Caroline et Mao, pour moi, il y a deux enjeux fondamentaux qui manquent peut-être. Le premier, c'est quand même la question centrale du financement. La lutte contre les violences faites aux femmes mérite un financement colossal, et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que les assos parlent du milliard, le milliard, le milliard. Mais le fait est qu'on a vu en Espagne, si on reprend une autre perspective européenne, que quand on met véritablement de l'argent dans la prévention des violences faites aux femmes, ça obtient des résultats. Je n'ai plus les chiffres exacts par cœur en tête de la baisse notamment du nombre de féminicides en quelques années en Espagne, mais il est colossal. En France, on est loin de là, et même le confinement a accéléré, a aggravé les choses, je dirais, puisque le nombre de signalements notamment pour violences faites aux femmes a augmenté. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Mao sur la partie écart de salaire et sur la partie revalorisation financière, bon, moi, je n'avais pas de doute sur l'utilité sociale des métiers aide-soignante, infirmière, caissière, aide à domicile, etc. Mais J'espère qu'après l'année qu'on vient de vivre, ceux qui pouvaient en douter peuvent en être convaincus au vu du rôle que jouent ces métiers qui sont pourtant à très forte prédominance féminine. Certains d'entre eux, c'est 80, voire même 90% de femmes qui en occupent. Et surtout, on oublie à quel point à la fois ces métiers sont centraux dans notre société et à la fois à quel point ils sont pénibles. Une caissière, c'est jusqu'à une tonne qu'elle peut soulever par jour juste en faisant passer les produits sur sa caisse. Une infirmière, c'est 10 à 12 kilomètres parcourus par jour juste pour aller de chambre en chambre. Et c'est une forme de pénibilité qui n'est jamais reconnue dans la valorisation financière, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a aussi une responsabilité importante de ces métiers. Quand on a des aides-soignantes qui prennent soin notamment de nos personnes âgées, en fait, elles ont des vies entre leurs mains. Et c'est un niveau de responsabilité aussi qui est important et qui est complètement sous-valorisé dans la hiérarchie des salaires. Et donc, moi, je plaide et je me bats vraiment pour cette dimension sociale du féminisme et pour revoir les métiers à l'aune de l'utilité sociale, de revoir les hiérarchies des métiers à cette aune. Et je reprends les propositions que fait une économiste qui s'appelle Rachel Civera, où elle propose une liste de 6 critères pour revoir la hiérarchie des métiers et revaloriser financièrement de manière objective, parmi lesquels responsabilité, technicité des gestes, la pénibilité, etc., et qui sont des moyens de revaloriser, mais de manière objective. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait au Québec il y a 20 ans et qui a donné lieu à une revalorisation de 5 000 euros par an pour les infirmières notamment. Et pour moi, ce n'est pas juste une question d'égalité entre les femmes et les hommes que ces métiers à forte prédominance féminine reçoivent le salaire qu'ils méritent. C'est aussi une question de quelle société on veut construire. Si c'est une société de liens, de cohésion qu'on veut construire, alors ces métiers ont une forte importance et alors ils doivent être revalorisés. Et alors, en étant revalorisés, on va peut-être aussi rééquilibrer ce déséquilibre de genre. Mais ça va au-delà de la question féministe, c'est vraiment la société de demain qu'on veut construire et que je pense que ça doit interroger sur la hiérarchie des métiers, la hiérarchie des salaires et comment, objectivement, on peut les revoir. Et j'ajoute un dernier élément qu'on peut utiliser, c'est le rôle de l'État employeur. Et si on commençait par l'État qui revoit la grille de ses métiers à travers tous les fonctionnaires, déjà, ce serait une petite révolution. Et je pense que ça répondrait à certaines des préoccupations de ces métiers. Et je vois à quel point certaines fonctions, certains métiers ont été complètement oubliés à la fin de cette crise Covid et se battent encore, ne serait-ce que pour avoir leur prime Covid. On voit des aides-soignantes, etc., qui se battent pour l'avoir. Ça dénote aujourd'hui à quel point elles sont sous-considérées et sous-valorisées financièrement. Et je crois que l'État, en tant qu'employeur, aussi a une responsabilité particulière.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Manon, pour tous ces éléments. Merci à toutes les trois pour vos points de vue et d'avoir partagé aussi vos opinions sur cette question très importante. On va devoir passer à vos actualités parce que Caroline doit partir. Alors, si ça ne te dérange pas de commencer avec ton actualité, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur la question du cannabis et de sa possible et souhaitable légalisation. Ça c'est un sujet qui m'occupe puisque nous avons terminé une mission d'information qui a duré près d'un an avec près d'une centaine d'heures d'audition sur ce sujet-là. On a vraiment fait un travail très conséquent et on a essayé de privilégier une approche qui soit celle de l'efficacité de la politique publique et pas de l'idéologie, parce que sur le sujet des drogues, on arrive facilement à des postures, à des approches manichéennes, en disant la drogue c'est mal, et évidemment que la drogue présente beaucoup de risques et de dangers, mais nous ce qu'on a essayé de voir c'est comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre ces risques-là, et voilà, beaucoup d'experts s'accordent sur le fait que la légalisation avec une régulation de l'État permet finalement de faire baisser la consommation des jeunes, de contrôler sanitairement les substances et de faire baisser aussi la criminalité. Donc ça, c'est un sujet qui me, euh, qui m'occupe. Moi, j'avais, Léa, tu nous avais aussi proposé un petit sujet qui n'avait pas forcément de lien direct. J'avais juste envie d'intervenir sur un petit sujet, puisqu'on parle de communication. Moi, j'essaie de communiquer beaucoup avec des BD, puisque je trouve que ce sont des supports pédagogiques, esthétiques, visuels, où on a une espèce de double dialogue avec à la fois le scénariste, mais aussi le dessinateur. Et je suis assez émerveillée par la créativité des nouveaux auteurs. Et je trouve que l'actualité et la politique s'invitent de plus en plus dans les BD. Donc, on a évidemment la revue dessinée. Mais on a beaucoup de BD qui interrogent soit des grandes figures. Il y a une BD qui vient de sortir sur Olympe de Gouges, vachement bien. Et donc, voilà, je voulais juste signaler ça au passage, puisque... je crois que pour retrouver un petit peu des termes communs de débat, il nous faut aussi privilégier des supports qui soient autres que la télévision, les réseaux sociaux, et la BD me paraissait intéressante. Voilà.
Ouais, c'est super intéressant, t'as raison, moi aussi je suis une grande fan de BD. D'ailleurs en ce moment je suis en train de lire la BD sur les coulisses du Palais Bourbon. Tu pensais à celle-ci, Manon, aussi? C'est génial, je vous le conseille vraiment. Ouais, c'est super chouette. Merci Caroline, on te laisse filer. Et je laisse la parole à Manon pour nous parler de ton actu. Manon, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui?
Moi, je résiste pas à vous parler du combat qu'on a mené ces dernières semaines. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. On a réussi à faire adopter un texte super ambitieux au Parlement européen, et croyez-moi que c'est suffisamment rare pour que je le note, dont l'objectif est de rendre juridiquement responsables les entreprises qui violent les droits de l'homme ou qui saccagent l'environnement dans leur chaîne de production, donc y compris leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, parce que jusqu'à présent, des géants comme Nike, Apple, Amazon ou autres, ou Total, faisaient faire le sale boulot à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants et du coup étaient irresponsables juridiquement. Eh bien ça va changer grâce à un texte qu'on a réussi à faire adopter cette semaine, et malgré la mobilisation importante des lobbies qui ont essayé de torpiller le texte et de le vider de sa substance en y apportant beaucoup de limites qui auraient de facto limité la portée du texte. Et on est d'autant plus content parce que c'est grâce aussi à une mobilisation à la fois de la société civile, des ONG qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, mais aussi on avait lancé une mobilisation sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui commande, c'est nous, et dont l'objectif était justement de dire que ce n'est pas aux lobbies, ce n'est pas aux entreprises multinationales de faire la loi, et c'est bien à nous de reprendre le contrôle sur ces géants de l'argent qui ont été pendant très longtemps au-dessus des lois. On pense à que ce soit McDo qui utilise du soja importé issu de la déforestation, Nestlé qui utilise des enfants esclaves en Côte d'Ivoire, ou Nike ou Zara qui utilisent des Ouïghours, le travail des Ouïghours en Chine, dans des camps d'internement. Et donc, c'est toutes ces situations-là auxquelles on pense et dont l'objectif est clairement de dire aux entreprises: ben en fait, maintenant, vous pouvez être poursuivi devant une cour de justice dans l'Union européenne pour tous ces crimes-là qui étaient jusqu'à présent impunis. Et comme des fois, quand on fait de la politique, on a tous des moments de doute et on se dit « mais pourquoi je suis là, en fait? À quoi je sers ?» Et ben, quand on arrive, rarement, je dois dire, à gagner des trucs, ben, on se rappelle pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait et pourquoi ça vaut le coup de se battre. Et on espère que ce sera traduit par de l'action. Évidemment, après, il y a le bras de fer avec la Commission européenne pour que le texte soit adopté en l'état. Mais voilà, je voulais saluer la mobilisation dans ce sens.
C'est génial, bravo. Super combat, c'était important que tu en parles. Super important, mais bravo. On est avec vous. Mao, je te laisse nous parler de l'actu que tu voulais partager avec nous aujourd'hui, s'il te plaît.
Ouais, je rajoute un bravo parce que j'imagine à peu près la difficulté à faire adopter un tel texte et l'énergie que ça demande. Donc, vraiment bravo. Alors, moi, j'ai un sujet de réaction plutôt à l'actualité positive, entre guillemets, puisqu'on en a besoin en ce moment, et un sujet un peu plus local. C'est que la ville de Mulhouse a commencé à planter une forêt de 24 000 arbres. Je ne sais pas si vous avez vu ça, avec un objectif de 34 hectares à 5 ans. Et en fait, c'est juste pour parler du fait qu'effectivement, bah, planter des arbres, notamment en ville, c'est devenu très tendance pour lutter contre les îlots de chaleur. Ça peut paraître une très belle politique écologique en soi, mais ça pose des vrais enjeux dont on parle assez peu, donc je voulais en parler aujourd'hui. Le premier, c'est que c'est en fait celui de, enfin c'est l'enjeu de la mise en perspective du bilan carbone. En fait, la pollution générée par les travaux mêmes de plantation face aux gains carbone sur les gros chantiers de retournement de la terre, parce que pas forcément un grand bénéfice, parce qu'un arbre dans le bitume, ça capte pas énormément de carbone. Donc parfois il faut se demander est-ce que ça vaut le coup. Il y a un deuxième enjeu qui est plus important encore, qui est le choix des essences d'arbres pour prendre en compte l'élément climatique avec un horizon de moyen terme. Par exemple, on commence à planter des espèces méditerranéennes à Paris, ce qui est une négation de la capacité pour la nature de s'adapter déjà, et ce qui a des conséquences au-delà de la ville, puisque le sujet derrière, en fait, c'est que ça conduit à une industrialisation des forêts, ce qui est un énorme sujet dont on parle peu en fait, mais on a l'impression que tout est vert en France et que tout va bien et tout ça, mais en fait ce sont de plus en plus des forêts mono-essence et qui sont des forêts très vulnérables parce qu'exposées aux mêmes maladies, qui appauvrissent la biodiversité environnante, parce qu'une vraie forêt, bah, c'est une forêt qui vit avec 1000 essences différentes, et aussi qui pousse de façon beaucoup moins dense que ces forêts mono-essence, qui empêchent en fait la lumière de passer, donc ça empêche les végétaux au sol, la présence d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans une forêt mono-spécifique comme ça, mais c'est extrêmement silencieux. Et en fait, ça fout un peu les jetons, parce que c'est une plantation d'arbres, en fait, ce n'est pas une forêt. Et ça perd beaucoup en vertu et en intérêt écologique, en fait, voire ça peut perpétuer une exploitation de la nature au service de l'homme, ce qui est en fait contraire à l'ambition initiale. Et enfin, il y a un sujet strictement politique, qui est la restructuration de l'Office national des forêts, qui se trouve dans un contexte financier et social difficile depuis 30 ans maintenant, avec des vagues de suppression de postes, alors même que la forêt est au cœur des objectifs climatiques. Il est même question d'une privatisation bien avancée de l'ONF, donc avec une gestion forestière qui sera beaucoup plus penchée vers le profit que vers le respect de l'environnement. Donc c'est encore un des aspects les plus invisibles de la casse des services publics, et pourtant les plus centraux et les plus déterminants à l'avenir. Et un dernier sujet qui est politique, qui est aussi quasi éthique en fait, puisque planter des arbres, c'est devenu une opération marketing pour énormément d'entreprises polluantes, comme le géant italien des énergies fossiles Eni, ou même la Fondation Total qui veut réorienter son activité vers la protection des forêts. Et en fait, ça va devenir un alibi pratique pour pouvoir continuer à polluer sans être pointé du doigt, etc. Mais qui ne fait en fait qu'étendre la logique de marché à travers la logique de compensation carbone, et non pas de réduction des émissions et de restauration des forêts.
C'était super intéressant, merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est un sujet dont il faut vraiment, vraiment parler, comme tu le disais à très juste titre, ce que font les géants industriels type Eni ou Total ne vont pas tout à fait dans le bon sens en effet. Bon, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation à ce 18e épisode de Popol.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.